Studio Tamani, voici nos informations en français.
Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Il est 8h à Bamako et partout au Mali. Voici la matinale. Un rapport du Programme alimentaire mondial PAM indique que plus de 31 millions de personnes sont menacées par l'insécurité alimentaire en Afrique de l'Ouest durant les prochains mois. La hausse des prix des produits de première nécessité est l'une des raisons avancées par le document. L'insécurité sévit toujours au centre du pays. La semaine dernière, plusieurs personnes ont été tuées, des greniers brûlés, du bétail emporté dans des affrontements entre chasseurs d'Onso et présumés djihadistes dans le cercle de Djenné. Notre dossier Ramadan du jour s'intéresse aux règles du jeûne. Si la majorité des musulmans se conforment aux prescriptions coraniques pour jeûner, d'autres en revanche jeûnent comme bon leur semble. Quelles sont les conséquences d'un tel comportement? La réponse dans ce journal qui vous sera présenté par Sikou Gadjigo. La mise en onde est assurée par Mamadi Keita. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Plus de 31 millions de personnes en Afrique de l'Ouest et centrale menacées par l'insécurité alimentaire durant les prochains mois. Cette alerte est lancée dans un rapport du Programme alimentaire mondial PAM publié la semaine dernière. Selon l'agence onusienne, cette situation est due à la hausse des prix des denrées alimentaires dans plusieurs pays. À cela s'ajoute l'impact de la maladie à coronavirus et les conflits dans la zone. Selon le PAM, il faut 710 millions de dollars pour prévenir l'insécurité alimentaire. Le détail avec Adama Modouaïdara.
Selon ce nouveau rapport du PAM, plus de 31 millions de personnes seraient aussi incapables de se nourrir pendant la saison de soudure de juin à août prochain. Selon les données du cadre harmonisé, ce chiffre est supérieur de plus de 30% à celui de l'année dernière. En Afrique de l'Ouest, les conflits alimentent déjà la faim et la misère, évoque le document. Dans le rapport, il est aussi expliqué que la hausse incessante des prix agit comme un multiplicateur de pauvreté, plongeant des millions de personnes dans l'insécurité alimentaire et le désespoir. Il ressort que par rapport à la moyenne des 5 dernières années, dans les régions de l'Afrique de l'Ouest, les produits locaux ont augmenté de près de 40% et dans certaines zones de plus de 200%. L'Organisation alimentaire des Nations Unies précise que cette situation est due en partie à l'impact économique des mesures mises en place pour contenir la propagation du coronavirus l'année dernière. Dans le document, il est aussi question des déplacés pour cause d'insécurité. Pour les 6 prochains mois, le PAM dit avoir besoin de 710 millions de dollars pour éviter la catastrophe dans 19 pays de la région.
Sur les marchés maliens, le constat reste de même. Malgré les dispositions prises par les autorités, la population continue de se plaindre de l'augmentation des prix de certaines denrées alimentaires. Des habitants à Bamako demandent aux autorités de procéder à un contrôle régulier dans les marchés. Écoutons ces réactions au micro de Mohamed Ag Aleida.
Nous-mêmes, on est dans les marchés, mais vraiment, on n'a pas constaté la baisse des prix des denrées alimentaires.
On dit à la télé, à la radio, les denrées vont chuter, ça va diminuer, ça ne diminue pas. On demande au gouvernement s'il peut faire déplacer quelques agents pour contrôler dans le marché.
Les kilos de la viande est passé de 2500 à 3000 francs. Le kilo du sucre est passé de 500 à 550 francs. Rien n'a changé. Je n'ai pas constaté de baisse sur le marché. L'huile est chère et ce n'est pas facile cette année. Les gens n'achètent même plus. Quand ils viennent demander le prix, après le constat, ils s'en vont parce que c'est cher. Vous parlez de baisse? Je n'ai pas constaté. Car hier, j'ai acheté le sac de riz à 19 000 francs CFA et le sucre à 22 000 francs.
Vous pouvez réagir à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte Twitter. 8h04 à Bamako, le comité d'orientation stratégique pour les réformes institutionnelles et politiques a officiellement été mis en place. Hier lundi, un secrétaire permanent, 5 experts et des assistants ont été choisis pour diriger ce comité. Pour le secrétaire permanent du COS, cette première prise de contact consistait à établir le mode de fonctionnement du comité. Mohamed Alousseini Touré a indiqué que les travaux devront aller rapidement après la proposition de l'agenda par le gouvernement. Écoutons sa déclaration au micro de Assetou Kanté.
Les échanges ont porté sur deux thèmes principalement. Primo, un règlement intérieur, autrement dit les règles du jeu entre les membres du comité stratégique, de manière à ce qu'on évite les surprises. Et le deuxième, c'était sur les élections, parce que le gouvernement a adopté le chronogramme général des élections. C'était l'occasion pour les membres du comité stratégique de commencer à discuter sur les élections, parce que c'est un des thèmes principaux. Le cadre qui a été fixé prend en compte l'ensemble des questions stratégiques qui touchent la transition. Il n'y a pas d'élimination, il n'y a pas de tabou. L'idée, c'est justement de permettre d'aider le gouvernement à naviguer à travers les difficultés que traverse une transition. Il est certain que l'un de nos premiers travaux vont être consacrés à la mise en harmonie de notre calendrier de travail par rapport aux objectifs visés par le cadre stratégique lui-même.
Direction le centre du pays, plusieurs morts, des greniers brûlés et du bétail emporté. C'est le bilan des affrontements entre chasseurs d'Onso et présumés djihadistes dans le cercle de Djéné. C'est dans la région de Mopti. Ces violences se sont déroulées les 13 et 14 avril dernier dans le secteur de Mehou et Maribougou. Selon les autorités locales, elles ont provoqué le déplacement massif de la population de la zone vers des communes voisines. Plus de détails avec notre correspondant Mamoudou Bokoum.
Tout est parti d'un conflit familial où deux frères se sont affrontés selon le maire de la commune rurale de Femaï. L'un était chasseur d'onzo et l'autre évoluait avec les présumés djihadistes, d'où l'implication des éléments de ces deux groupes. Et le bilan est lourd, témoigne Moussa Gouro Dial, maire de la commune rurale de Femaï.
À l'issue de ces affrontements, ce que nous retenons, il y a environ une vingtaine de morts de part et d'autre et beaucoup de blessés. En termes de dégâts matériels, il y en a eu beaucoup. Des maisons ont été incendiées, des greniers ont été également incendiés et les animaux ont été enlevés.
En plus de ces dégâts, les violences ont provoqué un déplacement massif des populations vers les communes voisines. Dramane Koulibaly, maire de la commune rurale de Gagna.
Mebou a été dispersé, Sarahé a été dispersé, Miaou a été dispersé, Lanaoué a été dispersé. Tous ces gens sont venus de Derari à Femaï jusqu'à Orali, de Sofara jusqu'à Kwakou, là où même les combats n'ont pas arrivé. Tous ces populations ont déserté les villages parce qu'ils craignent des revanches.
Face à la situation, l'État a pris certaines mesures urgentes. Colonel-major Abbas Dambélé, gouverneur de la région de Mopti.
En termes de mesures prises à notre niveau, nous avons instruit avec célérité à l'armée de se déployer sur la zone pour être capable de circonscrire la situation. En deuxième lieu, nous avons organisé avec les moyens de bord et dans l'urgence les secours pour les populations démunies.
À l'heure où nous sommes, la situation est sous contrôle, disent les autorités locales qui appellent les uns et les autres au respect de l'accord de paix signé entre les communautés dans le cercle de Djéné pour un meilleur vivre ensemble. Mamoudou Bokouma Mopti pour Studio Tamani.
Studio Tamani à Mopti, c'est sur la radio Kaoural. Nous en arrivons à présent au dossier du jour. Selon l'islam, le jeûne est un exercice obligatoire pour tout musulman en bonne santé, excepté les enfants. Cependant, beaucoup de musulmans ne respectent pas le code de ce quatrième pilier de l'islam d'après certains observateurs. Si la majorité des fidèles se conforment aux prescriptions et lois coraniques pour jeûner, d'autres en revanche jeûnent, interrompent le jeûne comme bon leur semble et reprennent suivant leur volonté. Ce genre de jeûne est-il permis en islam et quelles sont les conséquences de ce comportement? Les détails dans ce dossier signé Lala Aïcha Walet Info.
Dans le Coran, le jeûne est le quatrième pilier de l'islam. Il est une obligation pour tout musulman en bonne santé et pour toutes les religions qui ont devancé celle du prophète Mohammed. Imam Ibrahim Ilyas Meiga.
Dans la sourate 2, verset 183, dans lequel Dieu dit « Le jeûne a été une obligation sur la Oumma du Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme ça a été aussi une obligation pour les autres Oumma qui ont avancé la Oumma du Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. »
Musulman qui n'observe pas les jeûnes selon les prescriptions du Coran subira les peines prévues pour sa violation des textes, explique le religieux. Le châtiment de tout musulman qui arrête les jeûnes sans l'une des causes citées dans le Coran subira aussi une peine. Imam Ibrahim Ilyas Meiga.
Quelqu'un qui casse le jeûne sans cause, pour gérer ça, il faut qu'il jeûne 2 mois dans lesquels il n'y a pas de repos. Il y a deuxième chose, faire manger 60 pauvres. Et la troisième chose, libérer un captif.
Toutefois, L'imam explique aussi que les péchés sont sévèrement punis durant tous les mois du Ramadan, même pendant les heures de rupture. Ibrahim Ilyas Meiga.
Si la personne fait des autres comportements condamnés, côté de ça, pour ces péchés-là aussi, il y a des punitions.
Les religieux invitent les musulmans, les femmes et les enfants au respect des prescriptions de l'islam sur le jeûne. Selon lui, les jeunes doivent comprendre que le jeûne, c'est tout un mois et c'est le matin, mais aussi c'est le soir.
Faisons à présent le point de l'évolution de la maladie à coronavirus dans le pays. Les services de santé ont enregistré hier lundi 75 nouveaux cas de COVID-19. 61 patients sont guéris et 8 malades sont décédés à ce jour. La situation cumulée est donc de 13 145 cas positifs, 7493 guéris et 441 décès. C'est ce qui nous conduit à votre rubrique Actes COVID présentée ce matin par Amsitou Touré.
À la date du 15 avril 2021, plus de 33 500 personnes s'y sont fait vacciner contre la COVID-19. L'administration des premières doses du vaccin AstraZeneca a débuté au Mali le 31 mars dernier. Du lancement de la campagne de vaccination à ce jour, les premières personnes vaccinées ont-elles senti des malaises ou effets secondaires? Notre reporter Khalifa Goïta s'est entretenu avec certains d'entre eux. Il nous fait le point.
Après la vaccination, j'ai bel et bien ressenti des douleurs, nous révèle un interlocuteur qui a reçu l'anonymat.
Après la vaccination, tard dans la nuit, j'ai eu beaucoup de fièvre. J'ai pris un antalgique du paracétamol, ça a atténué la fièvre. Pendant la journée, j'ai eu encore des courbatures et là, ça m'a beaucoup secoué. Les malaises ont duré 12 heures comme ça. J'ai peur.
Contrairement à lui, Ladji Adama Kone dit n'avoir rien ressenti après la vaccination. Il explique sa motivation à se faire vacciner par la crainte de la maladie.
Je ne ressenti aucune douleur ou on m'a même dit de revenir le mois prochain pour ma deuxième dose. Vraiment, c'est une bonne chose. Aujourd'hui, c'est encore plus grave. Donc, moi, je dis à tous d'aller se vacciner. Ça vaut le coup. Quand une pandémie comme ça essaie de tout mettre à terre, essayons aussi de le combattre.
Certes, le vaccin n'assure pas l'immunité contre le coronavirus, selon des experts, mais il les rassure qu'il permet d'éviter des complications en cas de signes de la maladie. En plus du vaccin, ils insistent sur le respect des mesures barrières pour limiter la propagation du virus.
À présent, la question d'auditeur du jour, puis la réaction de Marc-Attier Dao qui nous édifie sur le sujet. Il est chargé de communication au ministère de la Santé.
Bonjour, monsieur Dao. Le nombre de vaccins reçus par le Mali permet-il d'assurer l'administration des deux doses requises?
Dès qu'on aura atteint la moitié du stock de vaccins que nous avons, donc nous sommes avisés que nous devrons attendre, garder cette deuxième moitié pour pouvoir faire la vaccination de rappel avec. La moitié de 396 000, ça doit faire 198 000 doses que nous devrons avoir en stock pour la vaccination, la deuxième phase. On est en train de tout mettre en œuvre pour que d'autres livraisons arrivent et je pense que le processus ne va pas s'arrêter.
C'est ce qui met fin à l'actu COVID d'aujourd'hui.
Studio Tamani. Studio Tamani, financé par les gouvernements de la Suède, du Danemark, de la Suisse, de la République tchèque et par l'Union européenne.
Voyons à présent ce qui fait l'actualité à l'intérieur du pays. Un jeune orpailleur de Goreli dans le cercle de Bafoulabé et trois autres de ses camarades ont perdu la vie suite à l'effondrement d'une mine artisanale. L'accident est survenu samedi dernier, 17 avril, sur un site d'extraction d'or à Kenyeba. Des témoignages sur place rapportent que certains jeunes se dopent avant de descendre dans les puits. Plus de 200 jeunes filles et garçons venus de toute la région de Koutchalan bouclé dimanche dernier, 18 avril, le 42e camp biblique de leur catégorie. C'était dans le village de Baramba. Le thème de cette édition a porté sur la vraie croyance. Selon les organisateurs, la rencontre a permis d'enseigner la foi chrétienne et d'inculquer les bons comportements aux jeunes. Elle a duré une semaine. Le chef d'état-major général des armées était en visite jeudi dernier dans les centres de formation communes de base de Ségou, Markala et Bafo. Le général de brigade Oumar Diarra était venu s'enquérir des conditions de formation des nouvelles recrues de la deuxième vague 2019 et les éléments issus du processus de désarmement, démobilisation et réinsertion DDR. Le chef d'état-major général était aussi porteur de messages relatifs à la sécurisation des personnes et de leurs biens. À 8h passées de 14 minutes se referme cette édition qui vous a été présentée par Sekou Gadjigo à la mise en onde de Mamadi Keïta. Merci de l'avoir suivi, mais n'oubliez pas, vous pouvez réécouter toutes ces informations sur notre site web studiotamani.org ou en appelant au 37 321.